été footballeur ?
J'étais à l'honneur. Et croyez-moi qu'à l'époque, j'hésitais pas à monter au filet.
There it goes ! See ya ! Touchdown !
The man !
The myth !
The legend !
Accélère ! Accélère !
Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh putain !
Campus Tour, it's in the game.
Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Nouvelle émission d'On se porte pas plus mal sur 99.5 FM sur Radio Campus Tour. Messieurs, bonsoir.
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 Ça fait bizarre, nous sommes que trois. Ça fait presque vide après avoir été cinq pendant
ces dernières semaines. Ouais.
Arthur, notre joueur du centre de formation. Est en repos.
Est en examen, surtout. Voilà. Donc, s'il nous écoute, on l'embrasse. Hein,
voilà, j'espère pas s'il est en examen.
Salut mon pote.
Oui, bah, à cette heure-ci, quand même, il ne faut pas déconner.
Et puis, Gabriel, bien sûr, qui nous rejoindra en cours d'émission,
oui.
Comme d'habitude, maintenant, depuis quelques semaines.
Voilà.
Ce soir, on va parler de Jeux Olympiques avec Philippe. Oui. On va parler de F1 avec Rami. Et on va parler de Gabriel avec le foot.
Le
foot avec Gabriel, pardon. Effectivement.
Il avait bien besoin. Attends,
oui, c'est
on le frustre depuis un moment.
Mais effectivement, on l'a beaucoup chambré en disant qu'il était venu avec beaucoup de foot. Mais finalement, il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps.
Non, parce qu'on l'a censuré.
Peut-être pas quand même. Okay. Menacé serait le terme.
Non, censuré. On est dans un monde maintenant où la censure fait partie des mœurs. Donc.
On aura un quiz évidemment que je vous ai préparé.
Oui.
Et la playlist. Faite par Gabriel, effectivement.
Pour une fois.
Donc, bien sûr, pas une seule chanson européenne.
Voilà. Parce que voilà. Gabriel est un grand passionné d'animé.
Exactement.
On donc connaît bien son univers.
Ouais. Ah, bah, oui, il continuera de vous faire découvrir.
Il a raison, si c'est une passion, il faut y aller.
Sans plus tarder, on va entamer sur le premier sujet. Direction les anneaux de 5 couleurs.
C'est ça. Alors, les Jeux Olympiques regorgent de champions, de records, de merveilleuses histoires. Mais le plus grand événement sportif au monde a également été le théâtre de scènes très originales, étranges, émouvantes, tristes ou cocasses. Aujourd'hui, on va parler de l'improbable marathon olympique de Saint-Louis en 1904. Alors, pour beaucoup dont je fais partie, hein, l'idée de devoir courir est en soi une torture. Alors, le faire sciemment pendant 42 bornes, il faut être quand même méchamment givré. Épreuve phare de l'olympisme, le marathon est soit l'épreuve qui prouvant l'incroyable capacité de résistance physique face à la douleur, CF, mon prof de lycée, et ou sinon, c'est l'épreuve aussi passionnante qu'un Valenciennes 3 ou l'intégrale de Derrick, ça c'est ma gueule qui le dit. Alors, en 1904, le mouvement olympique moderne n'en est qu'à ses balbutiements. Hein. On a déjà eu deux Jeux, hein, à Athènes en 1896 et Paris en 1900. Et c'est finalement Saint-Louis qui est désigné. Alors, initialement, c'était Chicago, hein, mais Saint-Louis avait menacé d'organiser des Jeux olympiques non officiels dans le cadre de l'exposition universelle.
Ce qui les arrangeait un peu, quand même.
Et devant cet état de fait, le CIO a fait « Ok ». Mais par contre, elle organisera les très controversées journées anthropologiques où des « entre guillemets indigènes » sont forcés de prendre part à des épreuves humiliantes. Ces dernières, à l'instigation du même directeur des Jeux Olympiques, James Edward Sullivan, vous allez l'entendre beaucoup ce nom, gardez-le en tête, ont pour objectif de légitimer ses opinions racistes et de démontrer à ses yeux la supériorité de l'homme blanc face aux « entre guillemets sauvages » en opposant leur performance sportive. Oui, c'était ça les États-Unis en 1904. Et le monde, qui n'a pas tellement changé depuis. Bref, c'était un bon gros fils de... Alors le 30 août, lors des Jeux Olympiques, donc James Sullivan, médaillé d'or toute catégorie, de la catégorie connerie humaine, a eu la brillante idée de lancer le marathon à 14h30. En plein été, sous une température de 32 degrés et un taux d'humidité de 90%. Ouf. Ouais, tu sens que déjà Alors, transpirant à grosses gouttes avant même d'avoir couru, les 32 athlètes, alors le pool, c'était 18 Américains, un Français, deux Sud-Africains, 10 Grecs, qui n'avaient jamais foutu les pieds sur un marathon, mais parce qu'ils étaient Grecs, bah, ils savent courir.
Hein. Bien sûr, c'est la légende.
Donc, ils n'en ont jamais fait. Et un Cubain. Gardez-les aussi en tête, parce qu'il y en a certains, on va entendre parler. S'aligne fébrilement au départ, sans se douter du cauchemar qu'ils vont vivre. Car ce cher Sullivan a eu une autre fulgurance pour tester la vaillance des concurrents. Un seul point d'eau au 20e kilomètre.
Ouais, à mi-parcours.
Après, à mi-parcours au moins. Et après, bah, plus rien. Et évidemment, rien à manger sur toute la distance. Hein. tout ça pour savoir comment réagit le corps humain déshydraté pendant un effort long et violent.
Ambiance.
Donc, c'est parti. Après 5 tours du Francis Field Stadium, les 32 marathoniens prennent plein ouest sur Forsyth Boulevard et comprennent tout de suite leur douleur. La piste caouteuse torture leurs pieds et lève des nuages opaques de poussière. Non seulement ils doivent courir sur des routes pourries, mais ils doivent également esquiver les voitures, les charrettes à cheval, les gens qui promènent leurs chiens, les trains, les trams et les animaux errants. C'est les Jeux Olympiques. Alors, le fameux mur des 30 km redouté par tous les marathoniens est encore un mirage hein, quand l'hécatombe commence chez les favoris. Le sadique Sullivan a frappé. Le tracé qui sillonne le comté de Saint-Louis abrite 7 collines. Alors, ce n'est pas des petites collines, c'est des trucs qu'il faut monter. En tout cas, déjà, les 3 derniers vainqueurs du marathon de Boston sont au tapis. Thomas Hicks, un des grands favoris américains, a été confié aux soins d'une équipe de soutien, de 2 hommes. Quand au bout de 16 km, il les a suppliés de boire un verre, ils ont refusé. Ils ont préféré lui éponger la bouche avec de l'eau distillée tiède. D'autres prétendants alors flanchent à leur tour, originaires de San Francisco, une ville connue pour être bâtie sur des montagnes russes. William Garcia ne craint pas les dénivelés, mais il a mangé trop de poussière. À la mi-course, on le retrouve allongé sur le bas-côté, à l'agonie, les poumons cramés et l'estomac détraqué par l'ingestion de particules. Le Californien respire à peine et fait une hémorragie interne. Transporté en urgence à l'hôpital, il sera sauvé in extremis. Non, ce ne sera pas lui le premier mort des Jeux. Alors, nos deux Sud-Africains, bah, en fait, c'est des comédiens. Ils participent à une reconstitution de la guerre des bourgs, ayant obtenu une journée de permission pour s'échapper du spectacle qui se joue lors de l'Expo universelle de Saint-Louis. Bah, il s'aligne au marathon. Pourtant, ce jour de repos devient un vrai moment d'histoire, car Len Toniani et Yann Machiani deviennent les 2 premiers athlètes noirs à participer aux Jeux. Ils courent certes pieds nus, mais avec aisance. Cependant, ils doivent faire un détour de 2 km pour échapper à un chien féroce qui les pourchassait. Eux finiront respectivement 9e et 12e sur les 17 arrivants. Auraient-ils les premiers médaillés africains au niveau des Jeux Olympiques, ben, on ne saura jamais malheureusement, mais il y avait peut-être de fortes chances. Notre ami cubain, Félix Caraval, alors lui il est posté à La Havane, il blague avec le public dans un mélange d'anglais et d'espagnol. Hein. Le petit homme au béret qui culmine à une hauteur de 1m55 a l'air si heureux de se retrouver là qu'il fait le beau, moustache frissonnante. Il a tant d'histoires à raconter. Lui qui a fait la quête à La Havane pour participer au jeu avant de tout perdre au dé à la Nouvelle-Orléans, de faire du stop jusqu'à Saint-Louis, débarquer en chemise, pantalon de ville et chaussures de ville, quelques minutes avant le départ, il a juste le temps de se faire tailler un Bermuda par un des coureurs américains qui a vraiment voulu lui donner un coup de main. Il a dit « Toi, tu vas crever ». Malgré ses pauses, il a réussi à voler des pêches à des spectateurs, mais il s'est empoisonné avec des pommes qu'il croyait étaient très très bonnes dans un arbre, mais qui en fait étaient complètement pourries. Donc lui, il est en train de faire dodo sur le bord de la route. Mais il finira quand même 4e du marathon le plus dur. Et c'est également le plus long de l'histoire, en 3h29, ça s'est fait.
Ah ouais, c'était le plus long.
Alors, dans le Francis Field Stadium, c'est la folie douce. Les 10 000 spectateurs crient « C'est un Américain qui va gagner !» En effet, c'est le maçon new-yorkais Fred Lords qui est d'abord ovationné. Il coupe la ligne d'arrivée en triomphateur. Il a écrasé la compétition, personne n'en croit ses yeux. Alors que Alice Roosevelt, la fille du président Theodore Roosevelt, va lui remettre la médaille d'or, un spectateur se met à hurler « C'est un imposteur, il n'a pas couru toute la distance ». cris d'étonnement dans les stades. Un Américain aurait triché aux Jeux Olympiques. Devant cette annonce surprenante, la supercherie est quand même découverte. Lords, lui aussi, il avait fait flancher, il avait une crampe, de grosses crampes. Et il a fait un tiers du trajet en voiture. Il a repris sa course que quand la voiture est tombée en panne, dépassant tous les autres coureurs qui n'en revenaient pas de leurs yeux de voir à quel point il était frais. Pour se défendre, Lords jure « Mais non, c'était juste une blagounette, j'allais tout avouer, voyons. » Mais il quitte quand même le stade sous les huées. Alors notre ami X, qui était en train de galérer déjà, à 11 km de l'arrivée, alors lui ça va de moins en moins, à 11 km de l'arrivée, ses soigneurs lui donnent une concoction de blanc d'œuf et de strychnine, c'est-à-dire de la morora, à laquelle, à l'époque, on prêtait de la vertu complètement fausse de stimuler le système nerveux quand elle est prise à petite dose. Alors, premièrement, ne faites pas ça chez vous, c'est un poison mortel, donc n'y touchez absolument pas. Et deuxièmement, c'est le premier cas avéré de dopage aux Jeux Olympiques, donc c'est quand même beau, ça date de 1904. Alors, X, la strychnine coulant dans ses veines devient cendrée, mou. Lorsqu'il apprit que Lords avait disqualifié, il se redressa et força ses jambes et se met au trot. Ses entraîneurs lui ont donné une autre dose de strychnine et de blanc d'œuf pour la route. Et cette fois-ci, pour faire descendre le tout, avec un petit peu de cognac, parce que c'est la moindre des choses. Et après, ils allaient chercher de l'eau tiède et ils ont réussi à lui tremper la tête et le corps. Avec de l'eau tiède, il fait 32 degrés. Après le bas, il parut revivre et accéléra le pas. Au cours des deux derniers kilomètres, écrit le responsable de la course, Charles Lucas, X fonctionnait mécaniquement comme une machine bien huilée. Ses yeux étaient ternes, sans éclat. La couleur cendrée de son visage et de sa peau s'était accentuée. Ses bras semblaient comme des poids bien attachés. Il pouvait à peine lever ses jambes alors que ses genoux étaient presque raides. Il a même commencé à avoir des hallucinations, croyant que la ligne d'arrivée était encore à 32 km de l'arrivée. Alors, dans le dernier kilomètre, il a demandé à manger, puis il a supplié de s'allonger, puis on lui a encore donné du cognac, et puis des blancs d'œufs. Il gravit la première des deux dernières collines, il est redescend en courant, il se balance dans le stade, il a tenté de courir, mais il en est réduit à un traînage des pieds sans grâce. Ses entraîneurs l'ont porté jusqu'à la ligne. Donc, en fait, c'est également une tricherie. Mais pendant qu'il était en l'air, ses pieds continuaient à essayer de toucher le sol, mais ce n'était pas touchable. Et il a été déclaré vainqueur. Voilà, c'est lui qui a gagné, bravo. Il a quand même fallu 4 médecins et 1 heure pour que X se sente suffisamment bien pour quitter les lieux. Au cours de la course, il avait perdu que 3 kilos.
Terrible,
terrible.
Alors, l'unique Français, il a fait quoi? Albert Corré arrive deuxième du marathon de Saint-Louis. En 3h34. Mais c'est au tableau américain que sa médaille sera comptée. Vous la sentez un peu le coup tordu, là? Alors, débarqué en 1903 à Chicago, Albert, qui exerce les talents de briseur de grève. Alors, un briseur de grève, c'était l'équivalent d'un CRS en beaucoup plus violent. Voilà. Il n'était pas policier, il était juste là pour casser des gueules. Le jeune Bourguignon s'inscrit à Chicago Athletic Association. Il rêve d'Olympiade, mais la France, comme la plupart des pays, n'a pas envoyé de délégation dans le lointain Missouri. Faut pas déconner, ça coûte cher. Corée aurait pu courir sur la bannière américaine, mais arrivé trop tôt aux États-Unis, il n'a pas de nationalité américaine. Donc il s'inscrit en individuel. Oui, on pouvait s'inscrire en individuel, un peu comme à la fac. On vient comme ça, candidat libre. C'était jouable. Mais sa médaille d'argent, elle sera américaine parce que les Américains, en fait, ils ont changé légèrement son nom de famille de Corée EY. Ils ont fait Corée AY. Ils ont dit que c'était un Américain. La médaille est américaine. Symbolique, c'est quand même pas sans enjeu parce que si la médaille était comptabilisée pour la France, on serait le seul pays au monde à avoir remporté au moins une médaille à tous les Jeux Olympiques. Et en fait, on l'est pas. Alors, pour terminer, le marathon de Saint-Louis a été tellement controversé que l'événement a presque été supprimé du programme olympique des Jeux suivants. Le directeur des Jeux de 1904, James Sullivan, a déclaré qu'une course de cette distance était indéfendable sur n'importe quel terrain. Lords, qui avait triché, a été suspendu à vie pour son comportement. Une punition qui a été finalement annulée à temps pour qu'il puisse gagner le marathon de Boston un an plus tard. Le Cubain Caraval, alors lui, il a vraiment une histoire qui est incroyable. Lui, il a obtenu le soutien du gouvernement grec pour venir courir le marathon d'Athènes en 1906. Mais il n'a pas pris le départ de la course. Et les journaux de son pays d'origine l'ont proclamé mort. Un an plus tard, il revient sain et sauf à la Havane. Donc, merci pour la famille. Ses allées et venues au cours de l'année précédente sont restées un complet mystère. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a foutu, où il était. Mais en tout cas, il était bien vivant. Le vainqueur de la course X a continué à courir des marathons pendant les 5 années suivantes avant de déménager à Winnipeg, au Canada, avec ses 2 frères. Mais aucun de ces coureurs n'a jamais vécu une course aussi absurde que le marathon olympique de Saint-Louis en 1904.
Merci Philippe. J'espère que vous n'êtes pas trop endormi. C'était vachement intéressant. Ouais, ça paraissait la folie hein, à l'époque.
Ah oui, c'est vraiment c'est une des histoires les plus... on se dit c'est pas possible.
Les plus what the fuck.
Ouais. Alors attends. Un Allemand Gabriel est parmi nous.
Bonsoir Gabriel.
Voilà. Voilà. Il suffit de... Faut prononcer pendant 5 fois.
Ah mince.
Merci de nous avoir rejoints. On ne savait pas trop à quelle heure t'arrivais, donc c'est bien.
Je suis là pour faire la météo.
Ouais. Alors la météo.
Ah, pour météo, et bah, il fait beau.
Appelle Daphné Burki.
Il fait un peu frais, et voilà.
Alors ça me donnait que tu sois arrivé, parce que du coup tu vas pouvoir nous expliquer d'où tu sors
tes musiques.
Tes musiques, justement, de quel animé, peut-être que ça pourrait intéresser
les auditeurs. Écoutez, c'est une playlist alors spéciale d'un seul animé.
Ok.
Parmi ces dernières années, a très bien marché, qui s'appelle Black Clover. Mm-hmm. Et vous allez écouter l'un de ses chansons phares, c'était Guess Who Is Back avec Kodakumi.
Yeah. Mince, il a cassé un truc en partant.
Il a tout cassé.
Ah ouais, c'est grave.
Ouais, j'ai fait tomber.
Il a fait tomber quelque chose.
Ouais. C'est le CD, le disque d'or.
Le disque d'or. disque de Crips.
Ah, c'est l'accréditation de la radio.
De retour de radio sur Radio Campus Tour. On est toujours dans l'émission Don't Sport Pas Plus Mal. L'émission sportive sur 99.5 FM.
Yes.
Et on ne pouvait pas y échapper. Hein. Il y a eu un week-end des fins. Alors, je ne sais pas si on parlait que du Grand Prix en lui-même, mais il s'est passé pas mal de trucs. C'est un pays de l'honneur, le Japon.
Pays du soleil levant, comme on l'appelle.
Souvent. On est d'accord qu'ils ont un sacré honneur,
ouais.
Mais c'est pas ce qu'a fait le pilote japonais ce week-end.
Ouais, il a marqué un point.
Il a marqué un point depuis Kamui Kobayashi, le dernier pilote japonais à avoir marqué des points. Et en plus, il avait fini sur le podium en 2012.
Oui, c'est vrai.
Et il n'a pas plu.
Non, il n'avait pas plu en 2012.
Il n'a pas plu à Suzuka,
ouais.
Pour une fois.
Qui s'est réveillé ce fameux Grand Prix à 7h ?
Moi.
Et resté pendant 1h30 à attendre que...
Même plus.
La prochaine fois, j'anticiperai, j'éteindrai la conversation pendant le temps qu'il faut des remarques à dimanche, c'est 7h du matin.
Ah, je sais, ça m'a également réveillé. J'ai vu ton truc, fermez vos gueules.
Le pire, c'est qu'ils l'ont vraiment fait derrière.
Oui, c'est vrai qu'on lui a pas répondu. Bah,
on était concentrés devant le Grand
c'est
Prix.
Vrai, c'est vrai.
Puis on a ignoré gentiment Cédric pendant à peu près 24 heures.
Pas 24 heures, mais au moins pendant la course. Dom arigato, comme diraient les Japonais pour cette passe décisive.
Ou comme dirait Jacques Villeneuve, probablement.
Oui. Ou Jean Alési.
Lui qui a couru au Japon.
Ou Jean Alési, qui est marié japonaise.
Ouais. Oui, et puis qui est un demi-dieu au Japon.
Exactement. Donc, nous nous sommes quittés la dernière fois avec la victoire de Carlos Sainz à Melbourne en Australie. Grand prix
bizarre,
à 5h du matin.
Ça fait bizarre de dire ça.
Ça fait bizarre, mais...
Ouais, mais vous inquiétez pas, les 20 prochaines fois, vous allez, voilà, ouais. Vous allez bien comprendre qui c'est le patron.
Mais l'ogre Verstappen est de retour. Hein. Parti en pole position, le Néerlandais a dominé un Grand Prix du Japon, marqué notamment par un drapeau rouge déployé dès le premier tour, à la suite d'un accident au virage 3 entre Alex Albon et Daniel Ricciardo, mais on va y revenir un peu plus tard. Le triple champion du monde n'a cédé le commandement de la course que provisoirement, oui, pour changer ses pneus, et ne s'est nullement laissé impressionner lors des deux départs qui ont été donnés ce dimanche. Et le leader du championnat s'est adjugé son troisième succès en 2024 et une 57e victoire en carrière. Et le pilote néerlandais a franchi la ligne d'arrivée avec 12 secondes d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez.
Et encore, il ne forçait pas.
Et comme on dit... Red Bull reprend sa marche en avant et reprend sa domination.
Red Bull donne des ailes.
Red Bull donne des ailes, exactement.
Plus grand chose, là.
Le Mexicain, auteur d'une course catastrophique et désastreuse en octobre dernier sur le circuit nippon, s'est montré très solide cette fois. Il n'a pas eu la même marge que Verstappen et a dû batailler un peu plus face au Ferrari. Mais cette seconde place lui permet de reprendre la deuxième place au championnat des pilotes avec 64 points. 13 longueurs derrière son coéquipier. Là, on voit un net écart de performance entre les deux Red Bull. Hein.
Parce que 12 secondes d'avance. Il n'y a rien à foutre. Et
si c'est pas Verstappen. Tu en as un autre qui n'a rien à foutre aussi.
Parce qu'il sait qu'il sera champion, sauf accident, champion du monde.
La voiture, elle est faite pour lui.
Elle est faite pour lui. Voilà. Et Pérez va contribuer au championnat constructeur. Hein.
Oui.
Ouais, et puis au moment quand ils vont avoir le titre, c'est-à-dire à peu près à la mi-saison, ils vont dire bon bah Pérez, t'es gentil, maintenant tu vas avoir toutes les pièces de merde, on va bien te charger.
Il va essayer de se battre pour le titre de vice-champion du monde.
Après, comme l'année dernière.
Voilà, il aura des concurrents, que ce soit à McLaren ou à Ferrari.
Surtout Ferrari,
mais normalement voilà, si pour le coup il reste un minimum investi pour les 10 mois qui lui restent dans cette écurie, il sera vice-champion du monde. À moins
je
que
pense
vraiment,
aussi.
Il soit vraiment déjà la tête ailleurs.
Honnêtement, si tu veux un pilote qui sert à rien, tu mets Logan Sargeant à côté de Verstappen.
Ben ça, pour le coup, c'est quelqu'un, on ne sait même pas s'il finira la saison.
Ben justement, il y a une place qui peut se libérer chez Red Bull.
Et il y a pas mal de places qui va se libérer, hein, parce qu'il y a pas mal de pilotes qui sont en danger. Ça va arriver.
Ah, le Mercato, il va être beau cet été.
Oh oui. pas forcément très performante sur un tour lors des qualifications ce samedi, la voiture de Maranello a toutefois montré que le plus important dans ce week-end, c'était la course, n'est-ce pas Lewis Hamilton ? La monoplace rouge maîtrise bien la dégradation de ses gommes et se montre très constante dans les longs relais en course. Cela a bien sûr profité à Carlos Sainz, auteur de la victoire à Melbourne il y a deux semaines, qui signe son troisième podium de la saison, mais surtout à un Charles Leclerc qui est passé de la 8e à la 4e place grâce à une stratégie différente de ses concurrents, bien qu'il n'a pas été aidé par une qualification catastrophique ce samedi au Japon. Et bien que le Monégasque n'a pas pu résister à Carlos Sainz lors des dernières boucles, il a en revanche pu contenir, mais avec un peu de difficulté, Lando Norris, pilote McLaren, qui paye une mauvaise stratégie de son écurie, qui l'a arrêté beaucoup trop tôt. Merci Zach Brown, hein, parce que je pense que Lando Norris, qui avait un bon rythme, aurait pu aller chercher la troisième place. Mais avec cette erreur stratégique, Lando Norris finit que cinquième.
J'ai l'impression que McLaren et Ferrari se sont inversés depuis le début de la saison. C'est-à-dire que Ferrari, qui l'année dernière,
depuis trois ans,
payait beaucoup de points et de podiums sur des stratégies faites à l'emporte-pièce, sur des décisions de course de la part des ingénieurs ou même tout simplement des mécaniciens qui n'amenaient même pas de pneus parfois sur le paddock.
Surtout à Zandvoort.
Alors que McLaren, plus ou moins avec peut-être moins de moyens et moins de même de lumière, arrivait un peu à nous surprendre, avec aussi un nouveau pilote qui était Oscar Piastri, Norris qui un peu là tout d'un coup se mettait à gagner en niveau. Et là cette année, Ferrari, j'ai l'impression qu'ils sont un peu revenus dans le jeu.
Ils sont devenus plus professionnels.
Voilà, plus professionnels, ouais. Et même Sainz fait un très bon début de saison, même Leclerc s'en tire plutôt bien, il n'a pas encore eu d'accident.
Pas encore,
c'est important.
Mais il lui manque un peu de rythme en course et McLaren, la gestion des gommes.
McLaren, ça fait 2-3 Grands Prix, on se demande où ils sont passés. Où est passée là, un peu l'équipe fringante qu'on avait vue l'année dernière et qui avait un peu égayé notre saison de F1 qui était un peu terne.
Ben, ça fait toujours ça, McLaren, parce qu'en début de saison, ils sont souvent en difficulté. Et il faut attendre à partir du mois de juin, juillet, un sursaut d'orgueil, des courses beaucoup plus régulières et solides. Mais là, on voit que McLaren, là, cette erreur va coûter probablement cher au championnat constructeur, parce que ça c'est une erreur qui se paye cash, notamment quand on joue la deuxième ou la troisième place au championnat constructeur, surtout pour Lando Norris qui avait un bon rythme, là on lui a quand même volé un podium.
En fait McLaren c'est l'Olympique Lyonnais. L'automne est mauvais, il faut attendre le printemps.
Ou Monaco.
Non, Monaco c'est beau en été, ça s'endort à l'automne, ça se réveille en hiver, ça se rendort au printemps et ça fait le sprint final.
Pour la suite du top 10, Fernando Alonso marque les 6 points de Aston Martin, vu que Lance Stroll ne finira que 12e à un tour du vainqueur. Je pense que Aston Martin, Mick Rack, ils doivent se dire, bon, Stroll, stop ou encore. Donc là.
Alors, dans un monde totalement idéal, oui. Mais je te rappelle que son patron, c'est le papa de Lance Stroll. Donc, en fait, il ne se pose pas la question. Même s'il se la pose, il ne se la pose pas la question.
Enfin, du coup, il ne la dit pas à voix haute.
S'il dit Lance Stroll, stop ou encore, ça va vite changer en Mike Crack, stop.
Voilà. Surtout si c'est Lorenz qui prend la parole.
Voilà, Lorenz, il a le doigt sur le bouton, il appuie, il fait sauter.
Il fait sauter qui il veut.
C'est son écurie. Il a fait une écurie pour que son fils fasse la F1, c'est tout.
Ouais, il l'a fait à plusieurs reprises. Ouais. Williams, Racing Point et maintenant Aston Martin.
Voilà. Bah oui. Sauf que son fils est nul.
Bah voilà.
Et heureusement qu'à côté, il a Fernando Alonso qui
marque 8 points.
Mais sinon, voilà, il a rien à faire en F1, tout le monde le sait. Mais comme son père, c'est le patron, il va rester. Il restera jusqu'à ce que Lance Stroll se dise « Bon, je me suis bien amusé, j'ai envie de partir » et il partira. Voilà.
Fernando Alonso marque les 8 points pour Aston Martin. 7e, George Russell avec les Mercedes. 8e, Oscar Piastri, qui fait quand même des bonnes petites courses, même s'il lui manque un peu de panache au moment de la réaccélération après les dépassements, parce qu'à chaque fois, il dépasse un pilote, mais à chaque fois, soit il patine, soit il vire trop large, et du coup, il est obligé de rendre la position, comme on l'a vu à Melbourne, mais aussi au Japon. Pourtant, il a du potentiel, mais c'est ces petits détails qu'il devra corriger sur le long terme, vu qu'il termine 8e avec 4 points. 9e, Lewis Hamilton. Il voulait une monoplace bonne pour la course, mais moins bonne en qualification. Au final, cette stratégie tombe à l'eau. Et le dernier, le meilleur pour la fin, un Japonais qui marque un point depuis les années Takuma Sato ainsi que Kamui Kobayashi, bah, il s'agit de Yuki Tsunoda.
Eh oui, Pikachu.
Eh oui, Yuki Tsunoda qui marque le dernier point de la course.
Un point. C'est pas mal ça.
Non, Rondoudou, parce que. Rondoudou. Non. Si, il s'énerve, Rondoudou.
Oui.
Il s'énerve.
Et
quand
après,
il s'énerve,
il met des signes de...
dans les gens.
Donc, Yuki Tsunoda marquera le seul point de l'écurie Racing Bulls, anciennement AlphaTauri ou Toro Rosso. Mais le fait marquant de la course a été le drapeau rouge provoqué seulement quelques secondes après l'extinction des feux.
J'étais là. J'ai regardé le résumé. J'ai vu.
T'étais pas là. Enfin,
oui.
Là, mais
tu l'as vu
quoi.
À distance.
Deux,
voilà.
Trois heures après.
Voilà, ouais. Il n'était pas là à 7h, mais à 17h.
Non, faut pas déconner, pas un dimanche.
Montez le volume, rendez-vous au premier virage, comme dirait Julien Febraud. Mais à l'amorce du troisième virage, Daniel Ricciardo, auteur d'une très bonne qualification, rate son envol, tasse Alex Albon sur sa droite. Le contact entre les deux voitures a envoyé la Racing Bulls de l'Australien en tête à queue, qui a fini sa course dans le mur de pneus.
Enfin, Ricciardo, il n'avait pas le choix.
Ah ben, là, quand tu vois son départ, c'est complètement raté.
Mais à côté, il avait une voiture qui le... Je ne sais plus c'était laquelle.
Il est pris en sandwich par une As.
Voilà, par une As, c'était Hülkenberg.
Évidemment, il y a toujours
voilà,
une As.
Hülkenberg, voilà, tasse un peu Ricciardo qui doit se décaler sur le bord de la piste.
Et sur son angle mort.
Voilà, sauf qu'à ce moment-là, il y a un Albon qui arrive.
Et Albon le sait très bien qu'à cet endroit-là, tu ne te mets pas là.
Il n'y a pas la place.
Pour une fois, ce n'est pas la faute de Ricciardo.
Voilà, il n'est pas fautif.
Il est un peu fautif parce qu'il rate quand même son départ.
Il est devant.
Oui, il rate son départ. Mais...
Il est devant, c'est Albon qui est derrière. C'est Albon qui doit...
Il n'a pas le choix. Il y a une As qui tasse. Il doit se décaler sur le bord de la piste. Sauf qu'il y a Albon qui arrive et qui se dit « Je tente ». Il a tenté. Ben, ça a foiré. Voilà. Et ils sont finis dans le bac.
Et une erreur qui risque de ne pas arranger son cas au pilote australien avant le Grand Prix de Chine. Parce qu'on sent que... Chez Racing Bulls, on est vraiment déçu des performances de Ricciardo. Donc, s'il n'y a pas d'amélioration, s'il ne marque pas au moins un minimum de points, je pense que d'ici la mi-saison, comme Logan Sargeant, comme certains autres pilotes, ben, il prendra la porte.
Non, il rapporte trop à l'écurie.
Et il coûte pourquoi l'écurie.
Sauf si c'est Helmut Marko qui se
saisit. Mais en matière d'image, il rapporte trop. Il rapporte trop, voilà, c'est lui l'image de Racing Bull, c'est lui, voilà, il fait vendre des sponsors, tout ça, parce que l'image de Ricciardo, c'est un pilote que, on va dire, tout le monde aime bien, ce qui est sympathique, il rapporte trop à l'écurie, donc moi je pense qu'il tiendra jusqu'à la fin de la saison, sauf si vraiment, il fait vraiment grosse boulette.
Comme Nick De Vries l'année dernière.
Et là, il y aura peut-être un Liam Lawson qu'on poussera, mais sinon non, il rapporte trop, donc il restera jusqu'à la fin de la saison.
Et pour finir, on est obligé de parler des Alpines. Ah. Même s'il y a eu un petit peu de mieux en qualification, notamment pour Esteban Ocon, toujours pas de points pour l'écurie française. On pense que la saison va être très très compliquée pour les Alpines.
Elle va être longue surtout.
Elle va être très très longue, donc pas de points après 4 Grands Prix. Est-ce qu'il y aura une amélioration à partir du mois de mai, juin, je ne suis pas sûr, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la saison va être longue et pénible pour les deux pilotes français.
Ouais, hein. Je pense que l'objectif d'Alpine, c'est juste de ne pas finir dernier, en fait, pour éviter de passer vraiment pour des idiots. Parce que As a déjà marqué des points, Williams en marquera certainement.
Ils ont marqué aussi des points, voilà.
Racing Bull en a déjà marqué. Il n'y aura que match avec As et encore.
Et Kicksauber.
Et Sauber, c'est tout. Voilà. Il y a 3 écuries. Il y en a une qui a déjà des points, les deux autres n'en ont pas. Bah, faudra avoir des points avant Sauber. Sauf que tu as l'impression que... Voilà, bon, Sauber, c'est aussi un très mauvais début de saison, mais j'ai l'impression que Bottas en veut un peu plus que Gasly, par exemple.
Ça, c'est vrai. Donc, le prochain Grand Prix aura lieu le 21 avril en Chine, qui va fêter ses 10 ans comme le Grand Prix de Sakhir à Bahreïn. Mais
peut-être que Guan Yu Zhou marquera un point.
On l'espère, parce que ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas eu un pilote chinois qui a marqué des points dans son Grand Prix national. Il y a très longtemps.
Ah, voilà.
Il y a très 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 longtemps.
Philippe, essaye de nous mettre un petit flashback là avec une petite musique.
Le seul pilote chinois que je vois, il n'avait pas participé à la course en elle-même. C'était.
Il avait fait les qualifs.
Ho Ping Tung, et je pense même pas qu'il a été dans une étude de merde. Donc Non, il n'y a jamais eu de Chinois, je crois qu'il y a... Je crois que c'est le seul, c'est...
C'est Guan Yu Zhou, mais peut-être dans le sport automobile...
Dans le sport automobile, il y a déjà eu des Chinois qui ont gagné, oui, ça c'est sûr.
Donc, le prochain Grand Prix aura lieu le 21 avril, et dans pas longtemps, il y aura les 20 ans du fameux Grand Prix de Haïda et de Suzuka qui a eu lieu en 95, qui s'est joué en l'espace d'une semaine.
Cédric, c'est à 9h, donc... Là, ça va.
Là, c'est à te lever. Non, mais je vous dis, ce serait bien que je me colle au moins une fois un résumé de F1, mais il ne faut pas que ça soit trop tôt, mais après, et que je m'achète une télé aussi.
C'est format course sprint, d'ailleurs.
Oui, il y aura la course sprint. Course sprint ouais.
le samedi, dans la, on va dire, aux aurores, et les qualifs le samedi matin, mais c'est à 9h, ça va.
Donc, okay. Prochain Grand Prix le 21 avril, montez le volume, rendez-vous au premier virage.
Merci, Rami. Sans transition, musique.
Musique également, évidemment, la musica. La deuxième musique de Kankaku Piro, ça s'appelle Rakugaki Page.
De vide encore, c'est beau.
C'est magnifique.
C'est faut faire redescendre petit à petit. Oui, attention, c'est ça. Tu vois, c'est...
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Oui. Avec une voix suave.
Avec une voix suave.
Exactement.
Tu essaies de refaire revivre les trucs de 2019.
Non, mais en jingle, ça pourrait être... Ça...
Bah, on en a un comme ça.
Oui, oui, mais pas avec ma voix.
Il y a aussi une version qui n'est pas diffusable.
Alors, attends, je vais le...
D'autres versions, ouais.
Oui. 19h40. Direction le football. Oh, oui.
Si vous rentrez, je bute Denis Babir. Je suis un taré, moi. J'ai combattu Dennis Metz, moi.
Soyons pas vulgaires, hein. Laissons le débat sur les terrains sportifs.
C'est qu'on a, on n'a pas parlé de ça. Enfin, si on en a parlé sur la conversation, du fameux match Fenerbahçe-Galatasaray.
Oui. Ah oui.
Ah, c'était un gag, hein.
Exceptionnel.
Ah, le terrain sportif, il nous réserve toujours de belles surprises.
Et sachant que c'était un peu le week-end des derbies.
Oui, c'est vrai.
Oui, il y avait Liverpool-Manchester.
Liverpool-Manchester, si tu peux
Roma
appeler ça.
Roma Lazio.
Il appelle le derby.
Il y avait Roma-Lazio. Au Portugal, tu avais le derby de
Benfica Sporting.
En Écosse, tu avais le derby de Glasgow pour la 50e fois de l'année.
Trois partout,
ouais. Et tu te dis, ouais, c'est le moment des derbies. Et en France, bah, il n'y en a pas parce que bah, Saint-Etienne-Lyon, ce n'est pas possible. Et Lens-Lille, c'était la semaine d'avant.
Voilà. Après, c'est toujours bien fait. Lyon aurait pu faire un effort en ne gagnant pas tous ses matchs.
Voilà. Enfin, Saint-Etienne fait un effort du coup en gagnant ses matchs.
Ouais, bah, ils ne sont pas loin.
Ils sont pas loin. Ils sont deuxième.
Donc, ouais, peut-être ouais. Reverrons-nous les Verts.
On les reverra, je pense.
Et évidemment, là, ça y est, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de la Coupe d'Europe, enfin des Coupes d'Europe, mais il y en a une surtout qui ce soir va retenir particulièrement l'attention, qui nous l'a retenu aussi hier soir.
La Coupe...
L'Eurocoupe.
L'Eurocoupe de hier.
D'abord, on va parler de Paris-Bourg-en-Bresse, la finale de l'Eurocoupe. Donc, on va s'arrêter une minute parce que je pense qu'il n'y a jamais eu deux clubs français en finale d'une Coupe d'Europe de basket.
Je ne pense pas.
Surtout Bourg-en-Bresse.
Peut-être
en
une fois.
Une fois, c'était dans la toute petite Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe FIBA.
Il n'y avait pas Strasbourg en
France. Il n'y avait pas encore Strasbourg.
Ah mince, aurait pu être Strasbourg, ça aurait été drôle.
C'est Nanterre qui avait gagné. Non, mais c'est vrai que du coup, on va avoir un club français qui, pour la deuxième fois, va gagner l'Eurocoupe, c'est-à-dire l'équivalent de la Ligue Europa. Ouais. Et le premier, c'était il y a 3 ans, c'était Monaco.
Et en football, c'est jamais arrivé.
C'est jamais arrivé. Donc, on peut quand même se.
Peut-être cette année, bah non.
Non.
Ouais, on
sait jamais. Ah, je vois, il va en venir.
On sait jamais.
On va y venir, vous inquiétez pas. Mais d'abord, parce que hier soir, ah, c'était deux très beaux matchs. Ah ouais, alors, on commence par lequel ? L'Espagne ou l'Allemagne ?
L'Espagne.
L'Espagne.
Ni l'un ni
Real
l'autre.
Real City, 3 partout. Franchement, est-ce qu'on a assisté, enfin, pour l'instant, au match de l'année ?
Match de l'année, peut-être pas, mais au moins, on a assisté à un beau football. Beaucoup mieux que les purges de Ligue 1, notamment le multiplex de 15h où il n'y a eu que des 0-0. Hein.
C'est vrai.
On passe de ça à des matchs de Ligue des Champions
enfin,
où on se régale.
On s'est quand même un peu ennuyé parce que... Enfin, ennuyé. Le début de deuxième mi-temps.
Tout est relatif. Alors,
tout est relatif, évidemment.
Il faut au moins un
tour. D'abord, si tu regardes jouer un 3
Valenciennes. Comme je l'ai dit dans ma chronique.
Voilà, et que tu passes tout d'un coup d'un Real à Real City, là oui, la notion d'ennui prend tout son sens. Après, si tu passes par exemple d'un Liverpool-Manchester United de dimanche à Real City, peut-être que voilà, tu te mouilles un peu moins la nuque. Tu avais déjà.
J'étais supporter voilà, de Liverpool.
Mais c'est vrai que sur Real City, après, c'était le début de deuxième mi-temps qui était un petit peu, on va dire, voilà, City.
Ligue 1.
Voilà, quoi. Guardiola faisait du Guardiola, c'est-à-dire qu'il faisait un peu la passe à 10.
Le tiki-taka.
Le tiki-taka, voilà, un peu ennuyeux. Et Carlo Ancelotti, lui, faisait un peu son petit truc, c'est-à-dire on n'avance pas trop, mais on joue en contre avec la vitesse de Vinicius.
Et bah, l'intelligence tactique à l'italienne.
Voilà. Non, mais je pense que les puristes ont dû aimer ce match. Mais il y a quand même eu, on va dire, des buts. Alors, déjà, Bernardo Silva ouvre le score sur un coup franc.
Gardien fautif.
Oui.
Une Giggs.
Un peu une Giggs au bout de.
Ou une Basler. Mario Basler.
Si tu commences à tâter des trucs de vieux, là, tu vas perdre.
Comment on reconnaît les anciens hein.
Ou une Charles III. Ah non, pardon.
on va perdre peut-être les 4 auditeurs qui sont jeunes.
Non, il y a un début à tout.
Ouais, sauf qu'on va les perdre. Il faut parler jeunes.
Le Real nous a refait un peu le coup de 2022 où ils avaient mis 2 buts
dans les dernières minutes.
Mais là, ça a été plus rapide. D'abord, un CSC.
Ah,
c'est bien, c'est
le meilleur joueur du monde.
Voilà, Diaz, qui a défié la frappe de Camavinga.
Ouais.
Camavinga qui a fait un très bon match d'ailleurs.
Exceptionnel depuis son arrivée au Real Madrid.
Qui prend l'ascension un peu sur Tchouaméni au Real. Hein.
Largement.
Tchouaméni, lui, par contre,
il a du mal. Ouais.
Sa place, je pense que cet été, sa place au Real va commencer un peu à être interrogée. Hein.
Ça tombe bien, il y a Kylian Mbappé qui doit.
Interrogé pas forcément, mais je pense qu'il ne sera pas un titulaire indiscutable, surtout s'il y a les départs de Kroos et Modric.
2 minutes après. Rodrigo nous a décidé de faire un rush merveilleux.
Magnifique.
Magnifique.
Alors, le ballon est un peu fini sur ce qu'on appelle une Amara Diané.
Ah, ah oui, quand ah il oui. S'arrache la moitié d'une voilà. Jambe et tout, que le ballon roule, voilà. Roule doucement et finit.
Les supporters du PSG la connaissent, la fameuse Amara Diané, celle qui a permis. Enfin, en fait, c'est là l'instant originel, on va dire, de l'RQSI.
Comment il s'appelait le Parisien qui avait une tendance à taper tout le temps à côté
il y en a beaucoup. Hein.
Pancrate.
Ces dernières années. C'était un jeune.
Pancrate
Pancrate, c'est
il est connu. C'était il y a 2-3 ans. Le mec, à chaque fois qu'il était
devant
lui.
Choupo-Moting. Choupo-Moting.
C'est sur les poteaux.
Voilà, mais là, c'est vrai que ça a fini un peu à la Maradiaga. C'est-à-dire que le ballon a été légèrement dévié. Il a fini sa course à 2 à l'heure dans les cages. Mais c'était propre. Rodrigo, un très grand match aussi. D'ailleurs, ça a été bizarrement. Haaland a été transparent.
Ça arrive souvent en deuxième partie.
Ça arrive souvent Haaland dans les grands matchs.
Vinicius n'a pas fait un match exceptionnel. Alors que
De Bruyne était là.
De Bruyne était là. Il avait des problèmes d'estomac.
Ok, d'accord.
D'ailleurs qu'il n'était pas sûr. En fait, il était sur le banc et on se demandait s'il pourrait jouer. Finalement, c'était pas possible. Mais c'est-à-dire que quand même, sans De Bruyne, sans un Haaland transparent et un Vinicius pas à 100%, on a quand même eu un très beau match.
Ah, ils ont les effectifs sur le banc aussi.
C'est ce qui a manqué au Real Madrid, c'est un gardien. Avec la blessure de Thibaut Courtois.
Ah bah c'est sûr que ça peut être, même si leur gardien,
Lounine.
Ouais. De l'autre côté, c'est Ortega aussi, c'est pas forcément.
C'est vrai qu'il y avait aucun des deux gardiens titulaires.
Donc.
Et c'est là où on voit qu'un Thibaut Courtois manque au Real Madrid, surtout dans des matchs comme ça.
C'était pas Kepa qui allait les sauver. Deuxième mi-temps, City joue un peu à la baballe, mais il y a un joueur qui prend la décision, c'est Phil Foden, qui décide
Quel joueur.
Oh, foutez-moi la paix avec lui.
Ouais, mais gros,
le Gascogne d'occasion.
Mais qui sort vraiment des, comme on dit, golasso.
Un golasso. Et 5 minutes après, un autre golasso, celui de Garvardiol, qui lui aussi, franchement, je trouve que c'est un joueur quand même, sous-estime un petit peu, parce que je trouve qu'il a pris une certaine importance. D'ailleurs, c'est un ex de Leipzig qui venge un peu le club allemand.
Le club allemand de l'année dernière.
De cette année. 3-2 pour City, le match s'emballe, et là, je pense que c'était le but du match. Ce centre de Vinicius qui voit Valverde au second poteau, et là la frappe elle est pure, elle est limpide, poteau rentrant, 3 partout. Quel match! Ah, quel match!
Oui.
Merci, Cédric.
franchement, c'est limite, c'est
moi qui aurais pu la faire.
Arsène Wenger, oui.
Ou Jacques Villeneuve.
L'autre match, en parlant d'Arsène Wenger, c'était Arsenal-Bayern. Arsenal qui retrouvait les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 11 ans. Une éternité.
Les jeunes ne connaissaient pas Arsenal.
Pas 11 ans.
Ouais, 14 ans.
14 ans.
2010.
Non, ils y avaient été en 2013.
Quart de finale, c'était
à
14 en 2010.
Ans.
Ouais.
Wow. Une éternité pour les Gunners, quand même.
Même pour nous.
C'est vrai que nous qui avons grandi avec Arsenal.
Qui avons grandi.
Nous, surtout.
Nous, on a grandi avec Arsenal dans les grandes Europes.
T'avais 2 ans quand ils sont devenus champions la dernière fois.
Arsenal, les années 2000, même 2010, Arsenal, c'était toujours sur le podium de
Premier League. Comment ils étaient surnommés
Les Invincibles.
Les Invincibles.
En 2004.
Après les Invincibles, t'as eu d'autres équipes.
Par contre, c'était l'équipe qui était chiante, parce que quand tu faisais des tournois de PES, il y avait toujours tout le monde qui prenait Arsenal ou l'Inter de Milan, parce que t'avais Adrien.
Oui, c'est vrai.
Et Arsenal, parce que t'avais Bergkamp, Thierry Henry, Yann Seymal.
T'avais Dream Team.
T'avais la Dream Team.
Arsenal-Bayern, 2 partout, ça aussi a été un très beau match. Bukayo Saka a ouvert le score dès la 12e minute. Serge Gnabry sur un rush
incroyable.
Grosse boulette du gardien aussi.
À égalité. Puis derrière, c'est Harry Kane sur penalty qui permet de reprendre l'avantage. La deuxième mi-temps, Arsenal attaque, mais n'y arrive pas. Et c'est finalement Trossard qui permet à Arsenal de, on va dire, sauver un nul, un match qu'ils auraient pour moi dû gagner.
Pour moi, ils se sont tirés une balle dans le pied en vue du match retour.
C'est difficile le retour.
Après, ils ont Harry Kane dans l'effectif.
Il faut aller à l'Allianz Arena.
Ils ont Harry Kane dans l'effectif. Donc, déjà, ils se tirent une balle dans le pied au niveau
Harry
titre.
Harry Kane, tant qu'on n'est pas en finale, il est bon.
Donc, à partir de là, je veux dire, bon.
Ah, vu comme ça,
Arsenal
je suis
a plus de chance. Hein.
Ouais, ça va être jouable.
Real City, le retour. City. Real.
Franchement, j'en ai aucune idée.
Je vois City quand même passer.
Parce qu'il y en a marre du Real, déjà.
Et ils vont récupérer également Kyle Walker et un autre joueur.
Je rappelle
que
City
est
tenant du titre,
et De Bruyne.
Peut-être marre de City aussi.
Juste pour que le foot anglais, une bonne fois pour toutes, a une personne bien précise dans ce studio que je suis en train de pas presque du tout pointer du doigt, qui a osé dire que le championnat d'Angleterre était nul. Hein, je suis désolé.
Qui a dit ça?
C'est
mais
le meilleur. Toi. Quand je t'ai dit c'était le meilleur championnat d'Europe, t'as dit ouais, non, il y a l'Espagne avant et l'Italie.
Non, j'ai jamais. L'année dernière,
tu l'as dit.
Le championnat d'Italie. L'année dernière, tu l'as dit. J'avais dit qu'il était très bon, mais j'ai jamais dit qu'il était meilleur que la première.
T'as dit c'était derrière l'Espagne et derrière l'Italie.
J'avais dit que l'Espagne était le pire des 5 grands championnats.
Non.
Ah si, j'avais dit que l'Espagne était le pire des 5 grands championnats.
Mais t'avais dit que l'Italie était meilleure que l'Angleterre.
Non, j'ai dit qu'il était.
On est d'accord sur ce point.
Non, j'ai dit qu'il était meilleur que le championnat anglais. Le championnat anglais est évidemment meilleur que le championnat d'Europe.
Mais on sait, on sait pourquoi la mauvaise foi. On verra ça.
Je peux dire. Mais l'Espagne, c'est le pire championnat actuel en Europe. Enfin, dans les 5 grands championnats. Mais...
Et la France.
C'est ça, les 5 grands championnats, c'est la France.
Ça, c'est un troll.
Non, dans les 5 grands championnats,
c'est la pire. Non, ça, c'est un pléonasme.
Ce soir, il y a un club qui retrouve les quarts de finale avec des champions pour la fin
de 3 ans. Un club qui devrait être en demi-finale. Je suis désolé, même si j'en ai rien à foutre du PSG. Avec tout l'argent, avec le talent qu'ils ont, s'ils ne sont pas en demi-finale, le Qatar, il ferait mieux de se mettre à faire des gros.
Franchement, cette année, on a vu des PSG de Barcelone beaucoup plus huppés. Ouais. Et au final, là, c'est un peu deux équipes au rabais par rapport aux confrontations d'avant.
Oui, mais je trouve...
Parce que le PSG n'a plus vraiment cette aura de costaud.
C'est vrai, mais...
Et Barcelone non plus.
Barcelone non plus. Ouvert.
Coup, Barcelone non plus.
Mais c'est pas,
Paris garde quand même... un certain, on va dire, certaines auras, déjà parce qu'ils ont des joueurs d'un certain niveau. Deuxièmement, parce que s'ils ont fait une finale en 2020, une demi en 2021, Barça s'est fait fouetter. D'ailleurs, le Barça n'a même pas fait, a été deux fois reversé en Europa League.
Oui,
exact.
Deux fois reversé en Europa League. S'était fait fouetter au Bayern l'année d'avant.
Et contre Francfort aussi.
Voilà. Ah oui.
Deux ans avant, ils se prenaient.
Le PSG qui les élimine en 8e.
Voilà.
Yes.
En 2020, ils en avaient pris 8.
Ouais, c'est l'année Covid. Hein.
Oui, le comeback contre Liverpool 2019.
Voilà. Donc, c'est-à-dire que le Barça, ça fait des années et des années qu'en Ligue des Champions, ils sont plus haut niveau. Pour moi, Paris est favori.
Le Barça, c'est.
Attends, tu peux répéter, supporter marseillais.
Mais je le dis, pour moi, le PSG est favori, le Barça n'est pas au niveau.
On va clipper ce petit truc.
Si voilà, attendez, je donne aussi.
Je suis désolé.
Demain, l'OM est favori.
T'as raison.
Le FC Barcelone, pour moi, c'est une équipe. Pour moi, je pense vraiment que c'est les. Peut-être
sur le papier, Paris est mieux armé que Barcelone.
Avec Dortmund, pour moi, c'est l'équipe la plus faible de ces quarts de finale.
Bah, honnêtement, ouais.
Avec le Bayern aussi.
Non, pour moi, le Bayern, c'est encore au-dessus. Hein.
Parce que quand on les voit en championnat, ils sont très faibles.
Ils ont Harry Kane, comme voilà. Déjà, si tu prends le pire joueur du monde.
Oh, ils avaient Roque Santa Cruz ou Paulo Guerrero.
Ils gagnaient. Je suis désolé, ils gagnaient.
La différence entre le Bayern et le Barça, c'est que Harry Kane, il marque des buts, alors qu'au Barça, Lewandowski, il est un peu en rade. Mais voilà, le Paris est favori. Le Barça, ils reviennent en niveau. Et voilà. Maintenant, l'autre match, je pense que lui, Atlético Dortmund, va être chiant. Vous êtes d'accord?
Non.
Non?
Non.
Ah non,
vous
Dortmund.
Pensez que ça va pas être chiant?
Bah, Dortmund.
Au Signal Iduna Park, il y aura du beau match.
Ah ouais, ouais. Tout au moins, il y aura une bonne ambiance.
Là, moi, c'est pareil, je les mets à égalité aussi.
L'aller, c'est à Madrid hein, ce soir.
Ouais, mais justement, le match retour, c'est à Dortmund.
Donc pour vous, alors, donc pour
il y a une grosse ambiance.
Alors,
donc,
le passe, mur jaune, comme on l'appelle.
Qui passe, jaune, alors, voilà. Qui passe Dortmund, Atlético.
Atlético.
Pour moi, Atlético. C'est la demi-finale, c'est pas Atlético. Mais...
Ouais, moi aussi.
Moi, c'est Dortmund.
Et du coup, donc, on table sur City-Bayern et PSG-Atlético en demi.
Moi, je dirais Real-Bayern.
City-Arsenal pour moi.
Moi, je dirais Real-Bayern.
Ah, intéressant.
Ouais, ça me fait chier que ce soit Arsenal. Ouais, je préfère un City-Arsenal au Bayern.
Ok.
Vu la gueule du Bayern, parce qu'ils ont Harry Kane, et je ne veux pas qu'Harry Kane gagne quelque chose.
Oh
je ne peux pas le voir.
Paris favori.
Non, il est
oui.
Toté là.
Paris favori, oui.
Paris favori.
Oui. Paris okay. Favori.
Paris, oui, logiquement, oui.
Mais attention à bien négocier le match retour. Hein.
Ouais. Et honnêtement, une petite demi-finale Paris-Dortmund.
Comme en phase de poule. Hein,
ah, ça pourrait être
non,
délicieux.
Non, Paris-Atlético, ça serait bien.
Ils n'ont jamais affronté Atlético sous la QSI, d'ailleurs.
Oui, mais justement, quand ils commencent à affronter des équipes qu'ils ne connaissent pas, ils perdent.
Mais ça serait magnifique.
Juste avant de conclure, un mot, parce que demain...
Bah, demain, c'est la demi-finale de Vata.
34 ans après Vata,
l'OM et Benfica se retrouvent dans la Coupe d'Europe en dessous.
Et 14 ans après aussi, parce qu'ils avaient perdu également l'OM en 2010.
Rami, si c'est pour faire ce genre d'intervention...
c'est l'année où l'OM est champion de France, mais ce match, je ne l'ai pas dirigé.
Est-ce que l'OM sera champion de France à la fin de la saison?
Non,
voilà.
Merci. Mais...
Est-ce qu'ils sont en Coupe d'Europe?
Oui.
Encore. Et s'ils si passent, il y a du Liverpool.
Très bien, on va poser la question. OM Benfica, qui est le favori?
Benfica.
Marseille.
50-50.
50-50.
Oui, en vrai, c'est 50-50, mais j'aimerais
surtout
que ce soit Marseille.
Surtout au stade de
Delalousse. Parce que le favori sur la double confrontation.
Ah, sur la double confrontation, je dirais 50-50.
Ça se joue où en premier?
Aller au Benfica.
Stade de Delalousse.
Voilà.
Club français au Portugal, ça
marche jamais. Club français
n'a gagné.
Le retour au Vélodrome, peut-être.
Ils ont intérêt alors de ne pas prendre de but.
Et à se bouger.
Liverpool-Atalanta.
Liverpool.
Ok. Mais Atalanta... Et ça me fait mal de le dire, n'est pas une équipe trop dégueulasse.
Ah oui, faut faire attention. Le surplus que le
j'ai intérêt d'être sérieux, ouais. Liverpool.
Et
ouais.
Aston Villa Lille en C4, il reste.
Excuse-moi, j'ai failli vomir.
Moi, je suis à fond sur les clubs français. Donc.
Moi, Aston je suis Villa. Pour Aston Villa parce qu'au moins, ils auront fait quelque chose dans leur carrière.
Depuis la Ligue des Champions 82.
Ouais, ouais. Oui, depuis 82.
En vrai, Lille, c'est pas de chance de tomber sur Aston Villa parce que franchement, à part Aston ouais. Villa, il y avait aucune équipe. Il y avait peut-être la Fiorentina, mais sinon, il y avait aucune équipe.
Les matchs en Italie à la Viola, c'est pas simple.
C'est pas facile, mais c'est au même niveau.
Honnêtement,
Lyon n'a jamais gagné là-bas à l'époque.
Honnêtement, t'es Lille, t'es Marseille, tu joues les
faut les jouer à fond, les vrais.
Les jouer à fond, tu en as rien à foutre.
C'est 50-50, là, tu tapes le favori. Alors que Marseille a évité la
semi. Mais ils n'ont rien à perdre.
Ils n'ont rien à perdre.
Ils peuvent passer avec l'aller en Angleterre et le retour à Lille, en vrai.
Ouais.
Oui, c'est très
s'ils
bien.
Ils prennent pas de but à l'aller, c'est toujours le même truc. Il faut pas prendre de but là-bas.
Et il faut gagner au moins.
Et après, tu laisses les choix à domicile.
Très bien. Donc, vous tablez. Allez, combien de clubs français passent ?
3. On ne passera jamais.
2. Franchement, même si j'ai dit Benfica, j'aimerais bien que Marseille gagne. Mais c'est juste que l'aller est au Portugal et les Français sont à
Moi, je vais dire les 3.
Ouais,
je
moi pareil. En vrai, il y en aura un certainement, mais.
Bah, vaut mieux espérer qu'il y en ait un, parce que s'ils s'arrêtent tous en quart de finale, au moins on connaîtra notre limite.
Voilà.
On connaîtra aussi les limites de Marseille, au cas où, je dis bien si, seulement si, ils passent Benfica, là, Liverpool va rappeler la réalité
Liverpool passe.
On rappelle, Benfica et Liverpool qui ont eu du mal à battre Toulouse.
Au match aller, Liverpool a gagné 5-1 contre Toulouse. Ouais. Et là, ça sera un match à élimination directe.
Bon, voilà, la Coupe d'Europe. Ce soir, c'est Paris. Allez, l'OM.
Oh, le trait.
Allez, les clubs français. Oui. Voilà. Allez, dernière pause musicale.
Ouais.
Allez, on finit par le dernier titre, Grandeur par Snowman. We're gonna wake it up for the brand new world. Yeah. We're gonna take you to the brand new world. To the brand new world. We're gonna wake it up for the brand new world. Get your hands up, baby. We're gonna take you to the brand new world. Yeah.
Yeah. sûr.
Ben oui.
Là, pour le coup, il a été moins...
Ça se voit.
Il était peut-être absorbé par le...
Par la musique. Par la
chorégraphie.
Vous arrêtez de discuter aussi. Oh. Ouais, c'est tout de suite moi. Dernière partie dont se porte pas plus mal. Le quiz.
Consonne.
L.
Voyelle.
E.
Consonne.
Q.
Voyelle.
U.
Voyelle.
I.
Consonne.
Z.
Quatre lettres, pas mieux. Le quiz.
Voilà, voilà.
La déstabilisation psychologique.
Ouais. Je kiffe ce jingle.
Vous voyez, non mais... On veut aplatir le niveau. Je suis trop beau, alors il faut me déstabiliser.
C'est ça. On dirait l'OM face à... Non, je déconne.
Alors...
Je suis inattaquable.
Ce soir, donc je vous ai préparé les derniers quiz comme je faisais, ou afin que vous renchérissiez les uns à les autres.
Un peu comme
la dernière fois.
Ça, c'est le problème de Cédric. Il a un concept et il prend 15 fois après.
Non, mais il a un concept. Surtout, moi, je le pique d'ailleurs. Oui, voilà.
Mais c'est bien parce qu'il a un concept tous les 6 mois.
Ça veut dire
alors,
que c'est ça.
Alors, je vous avais un peu troll dans la semaine en vous envoyant des faux...
Oui, bah on se doutait
ceci
bien.
Ceci étant, vous aviez vu que dans les faux, il y avait certains mots que vous ne maîtrisez certainement pas, mais ça sera le cas tout à l'heure aussi. On va commencer par un promis directement, direction le rallye WRC.
Ah.
Voilà, parce que sinon, ce n'est pas drôle.
Bah oui.
On va commencer par Philippe.
Oui.
Et donc, ce sera Philippe Gabriel Rami.
Oui.
Donc, rallye WRC. Combien de nationalités différentes de champions du monde pouvez-vous me trouver ?
Ça, c'est même très, très bien, ça. Alors, quand on parle WRC, est-ce que c'est sous le titre WRC ou est-ce que c'est le championnat du monde des rallyes ?
Alors, je suis remonté jusqu'en 73.
Donc, c'est championnat du monde des rallyes, WRC. Ouais. Okay, tu fais les deux. Alors, combien je pourrais dire ? 5.
Tu bluffes.
D'accord, très bien.
Eh bah, alors, c'est parti.
Tu bluffes, Martoni.
Alors, la France.
Ouais. Alors, la France, évidemment, avec l'Aube et Ogier, il y a Auriol une fois.
Et Auriol.
Luc Alphand aussi, il me semble, avec
le Dakar. Non, c'est le Dakar.
C'était le Dakar.
C'est
le
Dakar, lui. Skieur, Luc Alphand.
Aussi, mais qui s'est reconverti pilote.
Ah, c'est pas mal, ça.
Alors, il y a la Finlande.
Bien sûr.
Bien sûr.
Rovan Perä, Grönholm, Mäkinen.
Et tellement d'autres.
Voilà, oui.
L'Espagne avec Papa Sainz.
Et oui, Carlos Sainz.
Bien sûr, c'est le seul, d'ailleurs.
C'est le seul espagnol.
C'est le seul à disposition, comme quoi.
Je dis, alors... Putain, alors... L'Allemagne avec Walter Rohrl.
Oui, c'est le seul qui a
1982.
Oui. C'est pas le plus facile que j'aurais tapé comme pays, mais
et il bluffe, Rami.
Non. Je pense
parce qu'il y a, en fait, il y a un piège. Je sens qu'il y a quand même un piège et tu serais le premier à me le tendre. Donc, je vais quand même dire l'Italie.
Oui, avec Biasione qui a gagné, effectivement.
Et le piège, en fait, c'était, j'étais à deux doigts de dire l'Écosse, mais... Est-ce que tu allais compter
alors,
Colin McRae comme un
écossais que j'ai compté, est-ce que c'est compté comme britannique
ouais. Est-ce que la Suisse a gagné
avec Colin McRae, évidemment.
La Suisse ou pas, ils ont gagné ou...
Non.
Non.
Donc c'était Burns et McRae côté britannique.
Burns, McRae.
Norvège avec Peter Solberg,
Peter
évidemment.
Solberg.
L'Estonie en 2021.
Avec Marco Martin.
Tanak. Effectivement. Bon, Loeb, alors Loeb et Ogier, à eux deux, ils ont gagné quasiment 15-16 ans d'affilée, enfin 17 ans d'affilée, quasiment.
Ah, voilà un sport où on a un peu...
Et évidemment, il y a un pays qu'on n'a pas cité non plus, bah, les Suédois, forcément, avec Suédois. Blomqvist notamment, oui, et Valdegarde un peu plus longtemps, donc évidemment. Un point pour Philippe.
Les Suédois, les Volvo.
Eh oui, les Saab, supérieurs aux autres bagnoles.
Bravo Philippe, pour ceux qui bluffent.
Ouais, ouais, c'était pas facile, mais moi j'aurais déjà tapé les trois pays scandinaves en vrai.
Voilà, déjà tu commences par ça, déjà t'as gagné... La moitié.
Après, j'aurais dit la France, mais après le reste.
Et puis après la France.
France-Espagne.
Ouais. Tu tapes 4. Facile.
Deuxième, on va rester sur du rugby. Alors, il y avait les Champions Cup ce week-end, évidemment. Je sais que vous aimez bien. Alors, je crois qu'on avait déjà fait les vainqueurs. Bien sûr, on va taper les finalistes. Gabriel,
ouais.
En Champions Cup. Donc, oui. Combien de clubs ayant été en finale
Champions Cup, H-Cup.
La H-Cup, voilà
d'accord. Toute la Coupe d'Europe.
Donc, vainqueur et finaliste, hein, seulement qui sont allés en finale.
Ah, seulement
combien tu peux en citer
ils sont seulement finalistes ou ils ont pu gagner?
C'est aller en finale. Combien de clubs sont allés en finale de H-Cup
Ah, d'accord, même s'ils ont gagné.
Vainqueur ou finaliste.
Elle est bien.
Ah,
elle est bien, ça. elle est très bien, même.
Est-ce que je tente le truc, là? Je tente 10.
Bluff.
Ok.
Alors, tu vas bien aller doucement que je suis sélectionné.
D'accord. Ouais. Alors, déjà, on va prendre des vainqueurs. Non, des finalistes.
Ceux qui sont allés en finale.
Ceux qui sont allés en finale.
Clermont.
Bien sûr.
Clermont, oui.
Toulon.
Oui. Vas-y.
Toulouse.
Vas-y.
Oui.
La Rochelle.
Bien sûr.
Le Leinster.
Oui.
Oui.
Ça fait 5.
Oui.
Le Racing.
Oui.
92. Exeter.
Oui.
Voyons voir, qu'est-ce que nous avons d'autre?
C'est con, oui. Hein, 10.
Brive.
Brive, 96, 90.
Donc, alors attendez, j'ai dit.
Il m'en reste, il t'en reste deux à trouver.
C'est Ulster.
Bien sûr,
oui.
Et un dernier.
Le dernier, là, par contre, si tu le trouves, respect.
Ah là 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 là. J'hésite, parce que j'ai pas envie de dire. Alors, je sais qu'il y a ni écossais ni gallois, ça c'est sûr. Italien, jamais. Est-ce qu'il y a un autre club français?
Toulouse. Oh oui, il y en a plein.
Clermont, Toulouse, La Rochelle. Racing.
Il y en a quatre autres.
Français?
Oui. Français?
Ouais. Oui.
Sinon, moi, j'aurais pas tapé là-dedans. Au pire, j'aurais tapé.
Oui, j'aurais tapé carrément un autre pour, dans un autre pays.
Bah, baf?
Oui.
Bien joué.
Bien joué.
Alors, il y avait.
T'aurais alors, pu... en alors,
attends,
fois...
j'hésitais sur trois clubs. Munster.
Il y est.
Biarritz,
oui. Il y est.
Et Perpignan.
Il y est.
Bien joué.
On était qu'une fois en finale. Basse, Exeter, Cardiff, Lussap, donc Perpignan, Colomiers.
Cardiff, okay. Ouais.
Deux fois les Wasps, Northampton, oui. Ah, Ulster, oui. Brive, Biarritz, le Stade français.
Ouais.
Trois fois que des Français, Toulon, Stade Rochelet, Clermont et Racing. Quatre fois Saracens et Munster.
C'est ce que j'allais dire, Saracens.
Cinq fois oui, Leicester.
Leicester, ouais.
Et sept fois en tête le Leinster et le Stade toulousain,
ouais.
Évidemment.
Ouais.
Bravo.
C'est le gros succès. Bravo, Gabriel. Bravo.
Très bien. Maintenant qu'on arrive à la troisième question.
Dix.
Question foot.
Ah.
Je vais vous proposer sept clubs, histoire de changer un peu de formule. Sept clubs, il ne faut évidemment pas tomber sur le club concerné. Donc au foot. Mm-hmm. Laquelle de ces équipes n'a disputé qu'une seule saison en première division?
Oh.
Ah. L'AS Angoulême, l'AS Béziers, Limoges Foot, FC Mulhouse, Olympique d'Alès, FC Martigues, le Stade français. Et donc, c'est Rami qui commence.
Martigues.
Il y en a sept et une seule.
Il y en a un seul qui n'a fait
jamais,
qui n'a jamais fait de Ligue 1.
Qui a fait qu'une saison en première division.
Donc, toutes les autres, on en fait plus.
Oui.
Okay.
Martigues.
Martigues, évidemment, trois saisons dans les années 90, d'ailleurs, les trois.
Là où a joué Ali Benarbia.
Oui.
Alors...
Et le fameux maillot Jurassic Park.
Et costaud.
Oh putain, oui.
Et oui, du coup, c'est à toi.
Allez, Alès.
Six saisons.
Ah, puis ouais.
Impressionnant, ouais.
J'aurais pas cru. Toi.
J'hésite à le dire, mais.
Balance.
Le Stade français.
Oui. Et le pire, c'est que c'est le club de la liste qui en a disputé le plus. 15 saisons.
15 saisons, c'était au tout début, le Stade français.
Le Stade français qui a disputé une Coupe d'Europe.
Ok.
Oui, parce que déjà dans les années 50-60, ils étaient encore.
Avant d'être remplacé par le Racing.
Il te reste Angoulême, Béziers, Limoges, Mulhouse.
Angoulême.
Oui, trois saisons pour Angoulême.
Ça va vous départager entre les trois.
Mulhouse.
Six saisons pour Mulhouse. Il te reste Béziers ou Limoges, deux clubs qui certainement ne te disent rien.
Qui sont plus connus dans d'autres sports.
Ouais. Ouais. Il y en a un, c'est la balle orange, et l'autre, c'est le ballon ovale. Alors, je sais que... Mais en fait, c'est pour ça que je me demande, Limoges, ils ont vraiment été en Ligue 1? Parce que Béziers, ça je le savais, mais Limoges.
Ah, il y a plus d'une saison.
Bah oui, plus d'une
saison. C'est ça aussi, c'est
il y en a un des deux qui a fait plus d'une saison.
Je vais dire Béziers.
Eh ben, c'est faux.
Ah, Béziers, non. Je gagne ce point.
Non, c'est bon, Limoges qui a fait trois saisons, mine de rien, mais c'est plutôt pas mal.
Dans les années 30.
Oui, certainement.
Ouais,
oui,
non, mais,
je suis pas sûr que ce soit avant la Seconde Guerre mondiale.
Ou peut-être années 50.
Mais ils savent jouer au foot à Limoges.
Ouais, ils savent même pas jouer au basket alors.
Ça pue.
Ça pue jouer au basket.
Bon, c'est tous
et en tant que palois, je peux dire exactement la même chose.
Je me suis pas trompé.
Un point pour Philippe et un point pour Rami.
Ouais, t'as gagné un point magnifique.
Donc pour l'instant, il y a deux points pour.
Moi, je devrais en avoir 10
déjà. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Sur le foot.
Quatrième question. On va partir sur de la gymnastique.
Oh.
Ouais, ça va être dur. Parce que la gym, il va y en avoir aux Jeux Olympiques après
et
tout.
Oui, paraît-il.
Donc,
tu nous parles de gymnastique rythmique ou de
c'est, gymnastique. En général, oui, c'est ça. Il va falloir me citer des pays qui ont remporté des médailles dans les mondiaux féminins par équipe.
Oh, bah oui. Bah
oui, évidemment.
Facile, facile.
On connaît les tableaux par
mais c'est des pays.
C'est qui commence?
Mondiaux féminins. On avait fait 1, 2, 3. Oui, c'est ça, donc c'est re...
C'est re à toi.
C'est re à Philippe. L'Union soviétique.
Oui, j'accepte.
Ah non, il n'y a plus de mise, là.
Ah, il n'y a plus de mise.
Ah, il n'y a plus de mise.
Non, il n'y a plus... C'est... On repart aux mises, pardon.
Ah, on repart aux mises. Ah, bah...
Après, bon, c'était logique, après.
Oui, bah, oui. Dans tous les sports, tu dis ça, ça au moins un point. Bah, je vais dire 4.
C'est de la gymnastique. Est-ce que je m'y risque vraiment? En vrai.
Parce que tu connais la réponse.
Est-ce que c'est vraiment le moment? J'ai pas trop envie, donc tu bluffes, Philippe.
Ah, tu penses?
Bah, je pense pas qu'il bluffe, mais j'en aurais pas plus, même autant. En vrai, j'en ai deux sûrs, et après le reste...
Pourtant, tu vas voir que ça va être en vrai, beaucoup même si plus. Tu connais pas trop, il y a des pays...
Je suis sûr que ça doit être des pays à la
journée. Allez, vas-y, c'est parti.
Alors, donc j'ai dit URSS.
Bien sûr, je compte Russie, hein, qui en a gagné 24.
Oui, Russie, URSS, ensemble.
Il aurait dit 3, j'y serais allé.
États-Unis.
Oui. Troisième au nombre de médailles, avec 13 médailles.
Et j'aurais tendance à dire la Chine.
Bien sûr, voilà. Quatrième avec 11
médailles.
Mais le quatrième
va pas.
Voilà, ouais. Ça, voilà. Enfin, même les États-Unis.
Et j'avais dit combien?
T'avais dit 4.
4.
Donc, il en fait encore un.
Donc, quand on a tapé dans les trois gros, qui c'est qu'on peut prendre?
En fait, j'aurais dit, je pense, ces trois-là. Et après, j'aurais été un peu dans le cambouis.
Ou aller au pif, le Japon.
Oui.
Bravo. Bravo.
Pour le coup, il bluffait vraiment.
Ah là,
compte d'être.
Bravo, bravo.
T'as vraiment été au bluff là.
Alors, t'avais dit le premier, le troisième et le quatrième. Est-ce que vous saviez quel pays est le deuxième sur le
podium? La Russie, alors.
Non, j'ai l'URSS Russie, c'est
L'Allemagne de l'Est.
Les Roumains. Enfin, les Roumains.
Ah, les Roumains, ils sont.
Ah, mais oui, parce que Sébastien nous le disait.
Derrière, il y a quand même des pays comme l'Allemagne qui a 8 médailles. L'Allemagne, la Tchécoslovaquie qui en a 7.
L'Allemagne, laquelle Allemagne?
Tout réunifié.
Ah, d'accord.
Tout réunifié. La Tchécoslovaquie, puisque les Tchèques n'ont jamais gagné.
Et la France?
La France?
Une
d'argent.
Sinon, il y avait Suède, Yougoslavie, Hongrie, Pologne, Italie, Australie, Britannique et Ukraine. Donc,
il y a même
bon, après, c'est plutôt un ou deux médailles depuis, donc voilà, pas déconner non plus.
L'opté temps. Ouais.
Voilà. Philippe, du coup.
Honnêtement, tu as beaucoup de sports où tu peux juste dire URSS, déjà, tu as gagné.
C'est plutôt bien parti. Il reste un thème. Donc, du coup, Philippe, tu as déjà 3 points contrairement aux autres. Il va rester un thème. En plus, c'est bien parce que c'est du hockey sur glace.
Et moi, je fais comment pour gagner maintenant?
Alors, on est obligé de te piéger.
Il n'y aura pas de finale ou quoi que ce soit. Hein, donc,
j'ai 10 points techniquement. Donc,
Philippe techniquement, a déjà gagné. Ouais, puisque personne ne pourra le rattraper.
Personne pourra le rattraper.
J'ai marqué 10 points tout à l'heure. J'ai signé 10
points. Alors, en hockey sur glace, c'est toi, Gabriel, qui commence.
Ah oui.
Il va falloir me citer les pays qui disputent le mondial féminin 2024.
Yes.
Alors je parle en première division, enfin tout là-haut quoi.
En élite.
Donc les 10 meilleurs.
Les 10 meilleures nations.
Voilà. La France est en D2, l'équivalent de la D2.
Je vais tenter 8 au bluff.
Tu bluffes.
Tenter 8 au bluff. Alors les États-Unis.
Oui.
Bah oui bien sûr.
Le Canada.
Bien sûr.
Oui.
La Suède.
Oui.
Oui.
La Norvège.
Non.
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 Alors la Finlande.
Vas-y, tu aurais dit quoi derrière?
La Finlande.
La Finlande. Ouais. Oui.
L'Allemagne.
Oui.
La Suisse.
Oui.
L'Autriche.
Non.
Et non.
Ah bon, bah alors ça faisait 7.
Perdu.
Et il m'en restait un. J'aurais dit quoi? J'aurais probablement dit le Japon.
Oui. Sinon, il y avait Chine, Danemark et la République Tchèque.
La Chine, je l'aurais pas cru.
Eh oui, elles sont montées en élite l'année dernière. Les Chinoises. Au moment où la France tombait.
J'étais au bluff. J'ai failli.
Ah, j'aurais
pu. C'est bien, t'as tenté, c'est beau.
J'aurais dû dire 6.
Ouais, mais sauf que t'as tenté, c'est bien.
T'as tenté.
En fait, je savais pas combien Rami aurait
ce qui nous fait un total de 1 point pour Gabriel, 2 pour Rami et 4 pour Philippe, car a gagné 4 des 5 questions quand même.
Bravo Philippe. Oh,
merci.
C'est la seule victoire où Gabriel aura la carotte tout le monde. Mais,
mais il a réussi ses 2 coups de bluff.
Non, mais tu vois, là, on a vécu un moment un peu Verstappen a abandonné. Est-ce que le championnat va changer? On sait très bien que non.
Et ben Gabriel va être plus fort. Tu reprends ta marche en avant.
À côté Ligue 1, là, il était un peu. Il a tenté le bluff, on a un point.
On a un point, on gratte des trucs.
On garde notre point.
en salopard.
Bravo. Bravo,
merci, voilà. Messieurs, bravo. Mais super quiz et bravo, messieurs.
Oui, c'était un petit échauffement pour nous de samedi.
Costaud en question.
Ouais. Non, mais c'est bien parce que j'ai tapé dans les thèmes où on a zéro culture. Donc,
Pas pourquoi.
Bah, la gym, je suis désolé. Je suis pas sûr
en gym, tu serais arrivé, toi. Ah,
ouais. Non, mais les autres, j'ai tenté. Est-ce qu'il aurait tenté, lui?
Je sais pas. Ça n'a pas été mes questions.
Pas sûr.
Merci d'avoir participé à cette nouvelle émission. Une fois de plus, bien sûr. La semaine prochaine, on se retrouve à 5, normalement, si tout se passe bien.
Normalement.
Normalement, on sera là, voilà. Arthur.
Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, normalement, c'est l'entourloupe. Mais je pense qu'ils
sont pas là. Donc la suite des programmes.
La suite des
belle émission.
Très très bonne émission, quoi qu'il arrive.
Donc on vous laisse. Rendez-vous de 19h mercredi prochain. Bonne soirée.
Salut à tous.
Salut.